Affaires des hommes. L'émission qui donne la parole aux étudiants étrangers, proposée par le service du recrutement international de l'Université catholique de l'Ouest.
Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver en présence de mon collègue Clément. Comment vas-tu Clément ?
Ça va très bien.
Nous avons aujourd'hui un plateau particulier à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs. Nous allons, Clément et moi, vous raconter nos dernières missions qui sont toutes fraîches. Bilan du terrain, bilan d'Afrique de l'Ouest. Et nous préparerons une deuxième surprise que vous trouverez tout à l'heure. On se retrouve dans un instant.
Terre des hommes.
Voilà, alors aujourd'hui, chers amis, nous avons projeté de vous offrir un compte-rendu en live. Alors, un petit peu en décalé parce que nous sommes rentrés, nous étions Clément et moi-même dans deux missions séparées. Et donc, je vais commencer à jouer le rôle de l'intervieweur. Je vais donc poser des questions à Clément pour qu'il nous raconte un peu, eh bien, qu'est-ce qu'il est allé faire au Ghana et au Togo récemment? Qu'est-ce qui s'est passé? Des nouvelles du terrain, parce que au fond, on fait beaucoup parler de nos étudiants. Mais nous aussi, on bosse, on se retrousse les manches, on sue, hein, on mouille nos chemises, n'est-ce pas Clément?
Tout à fait.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ces missions? Et puis après, ben, je passerai le relais et c'est lui qui me posera des questions sur ma toute dernière mission, puisque je suis rentré vendredi dernier du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa. C'était un périple dont je ne suis pas prêt d'oublier certains détails. Voilà, Clément, eh ben, écoute, je commence, n'est-ce pas? Tu es rentré tout récemment aussi d'Afrique de l'Ouest. Raconte-nous un peu ce que tu as fait, qui tu as rencontré, quels étaient les enjeux de tes missions, comment ça évolue les choses, finalement, comment ton travail évolue aussi avec tous les contacts que tu as, et comme tu étais sur le terrain, c'est tout frais, et je pense que ça va intéresser beaucoup les auditeurs et les auditrices.
Bien sûr, Jean. Alors, c'est vrai que sur notre année de mission et de recrutement, on enchaîne les missions. On transpire, on se retrousse les manches comme tu le dis, et puis dans les zones qui nous sont attribuées, on va visiter différents partenaires dans différents pays. La dernière mission en date que j'ai pu réaliser, elle était au Ghana. Donc le Ghana qui est un pays anglophone, dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, coincé entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Donc c'est un petit pays anglophone entouré de voisins francophones. Et c'était un pays qu'on avait découvert en 2019 à l'occasion d'une grande tournée organisée par Campus France, qui était une tournée itinérante de la Côte d'Ivoire au Ghana et au Togo. On y avait passé seulement 2 jours, mais on avait identifié un vrai potentiel et un vrai appétit de France chez nos étudiants ghanéens, qui nous avaient témoigné en effet leur souhait de prolonger leurs études en Europe et plus particulièrement en France. Et ça nous avait interpellés, puisque on a l'habitude de travailler dans des pays francophones, où naturellement il y a un lien linguistique qui est très fort et donc une mobilité, je dirais, qui est quasiment assurée. Les étudiants ivoiriens, c'est naturel, tout à fait. Là, les Ghanéens, on s'est interrogé, qu'est-ce qui les poussait à venir étudier en France? On a essayé de creuser un petit peu cette question, et puis on s'est dit, allez, on retente, maintenant que les frontières sont quand même majoritairement ouvertes à nouveau, que les contraintes sanitaires s'assouplissent, allons revoir le terrain et interroger nos partenaires institutionnels. Donc très souvent, ce sont les ambassades, les services consulaires, et puis Campus France, qui est une agence qui a une double tutelle, ministère de l'Europe des Affaires étrangères et ministère de l'Enseignement supérieur, qui est chargée de faire la promotion de la France comme destination d'études. Et nous, l'Université catholique de l'Ouest, au fond, on est un produit de cette destination France. Donc on y va pour promouvoir notre offre de formation.
Mais alors, dans ce pays, donc le Ghana, tout le monde parle anglais, je suppose, comme tu viens de le dire. Et comment est-ce qu'on peut appréhender le fait que tu rencontres des jeunes qui sont africains, subsahariens, anglophones? Or, naturellement, je pourrais penser qu'ils vont plutôt vers l'Angleterre, l'Irlande, le Canada ou les États-Unis, ou peut-être l'Australie, ou d'autres pays anglophones comme le Libéria ou l'Afrique du Sud. Pourquoi est-ce que la France, d'un seul coup, ou peut-être pas d'un seul coup d'ailleurs, pourquoi est-ce que la France semble attirer ces jeunes étudiants vers un pays comme le nôtre, avec son histoire très frenchy et très, qui est un peu éloignée de leur base tout de même?
Tout à fait. Je pense qu'il y a différents éléments qui nous permettraient d'analyser cela. D'abord, il y a un contexte international. Si naturellement les étudiants ghanéens se tournent vers les États-Unis, le Royaume-Uni ou l'Australie, il ne faut pas oublier quand même que les distances géographiques sont bien plus importantes pour aller en Australie et aux États-Unis. Donc ça implique des coûts qui sont beaucoup plus élevés. On sort quand même de quelques années avec M. Trump qui était à la présidence des États-Unis, qui a pu refroidir aussi certains étudiants à la mobilité vers ce pays-là. Le Brexit, certainement, joue en la défaveur du Royaume-Uni. Donc tout cela, ce sont des éléments qui permettent d'expliquer pourquoi les Ghanéens regardent ailleurs. Alors, regardent ailleurs, il n'y a pas que la France. Hein. On a aussi la Chine qui commence à être très compétitive en Afrique, la Russie également. Donc il y a un enjeu international dont on pourrait parler plus longuement peut-être dans un autre épisode de Terre des Hommes. Mais ça, c'est un premier élément d'explication. Le deuxième, c'est que la France, l'enseignement supérieur français, développe de plus en plus d'offres éducatives en anglais.
D'accord.
À l'image de l'UQO, on a quand même quelques masters, on a une licence dispensée 100% en anglais.
Donc ils viendraient en France pour suivre des programmes enseignés en anglais.
Tout à fait. Mmh. Et puis il y a une troisième partie qui concernerait les étudiants ghanéens francophiles, qui savent, alors francophiles, ça veut dire qui aiment la langue française, qui ont une appétence pour la langue française sans forcément la parler, mais qui vont s'inscrire à l'Alliance française pour apprendre cette belle langue, éventuellement poursuivre dans un centre de FLE tel que le CIDEF que nous avons ici à l'UQO, pour améliorer leurs compétences linguistiques en vue de rentrer en licence ou master qui serait dispensé en français. Et la France est reconnue pour des filières d'excellence à l'international avec différentes priorités que va fixer le gouvernement ghanéen ou l'ambassade de France en termes de développement. Et sur ces filières-là, si l'étudiant se dit que c'est la France qui porte ces filières d'excellence, eh ben c'est vers nous qu'il va regarder.
D'accord, mais... Donc finalement, ce cadre un peu que tu nous poses, là, cette image globale, cette image générale, s'inscrit dans cette mobilité internationale étudiante. Mais est-ce que tu pourrais déjà nous présenter un peu le pays, parce que tu l'as géographiquement situé, mais présente-nous un peu la fiche d'identité de ce pays. Combien d'habitants, je ne sais pas moi, quelle est son histoire, ils ont été colonisés. C'est assez à la mode aujourd'hui de parler de d'où est-ce que tu viens, quels ont été les pays qui nous ont colonisés. Les Ivoiriens, par exemple, on parle tout le temps. Et ça construit leur histoire et ça prépare aussi nos rapports avec eux. Le Ghana, qu'en est-il? Est-ce que tu peux nous faire une petite fiche signalétique de ce pays qu'on connaît peu, en fait, finalement?
Oui, c'est vrai. Alors, d'abord, pourquoi ce pays est anglophone? Eh bien, parce que le colon qui est resté le plus longtemps, eh bien, c'était l'Angleterre.
D'accord.
D'accord. La capitale aujourd'hui, c'est Accra, qui est vraiment sur le littoral, au sud du pays, qui est une capitale politique et administrative, mais ce n'est pas la capitale historique. La capitale historique, c'est Kumasi, qui est dans le centre du pays, et c'était la capitale du royaume Ashanti. Ashanti, qui représente aussi bien aujourd'hui une identité culturelle, une identité linguistique, et il y a un héritage très fort aujourd'hui. Beaucoup se revendiquent encore de cet héritage Ashanti. On va retrouver, par exemple, un roi. Un roi qui n'a aucune autorité politique, sinon une autorité peut-être morale, presque spirituelle, que tous les candidats à la présidentielle, que tous les présidents consultent.
D'accord.
Pour s'assurer d'avoir son soutien.
Il y a des langues locales, ou plusieurs langues locales peut-être ?
Plusieurs langues locales qui cohabitent, oui, tout à fait. Je pourrais vous remercier en fin d'émission en disant « Médacé ». Voilà.
Et c'est en quelle langue ça ?
Eh bien ça, c'est du Twi.
D'accord.
Le Twi qui est la langue locale du Ghana. Donc on va retrouver cette ancienne capitale historique Kumasi qui est dans le centre du pays, où il y a encore un roi qui a son palais, qui a ses jardins, qui a sa cour.
Incroyable.
Oui, véritablement. D'ailleurs, lors de mon passage à Kumasi, puisque je visitais une université partenaire, j'ai pu voir le roi passer, alors non pas dans un beau carrosse, hein, comme on peut se l'imaginer, mais plutôt dans un gros 4x4, comme on a l'habitude d'en voir en Afrique, parce que c'était le jubilé de la reine.
Wow.
C'était sa cinquième année sur le trône à Ashanti, finalement, au Ghana. Donc c'était très intéressant.
Donc il a une cour, je suppose, avec des suivants, enfin des... On parle pas de partisans, mais il y a une famille royale, en fait.
Tout à fait.
Et on devient roi ou reine de père ou mère en fille, ou de père en fils. Comment ça se passe? Il n'y a pas d'élection, je suppose. C'est,
non.
C'est une lignée royale qui continue, quoi.
Tout à fait, tout à fait. C'est au sein de cette grande dynastie Ashanti, on va retrouver des familles, des lignées qui sont prédestinées à prendre ce pouvoir symbolique. Mais ce ne sont pas des maris et des femmes, à l'inverse de ce qu'on a pu connaître, nous, en Europe. Non, ce sont très souvent des frères, des sœurs. Des cousins, des cousines, parfois un oncle et son neveu, ou plutôt un oncle qui passe le pouvoir à son neveu, qui lui-même va pouvoir avoir une nouvelle reine. Mais ce ne sont pas des couples, en tout cas.
D'accord.
Ce ne sont pas des couples royaux. Donc ça, c'est intéressant, c'est une lignée familiale, mais il n'y a pas de jeu d'alliance, il n'y a pas de jeu de mariage par profit ou par intérêt.
Et ce roi a encore une réelle influence sur le pays, politiquement, socialement. Il peut donner des conseils, ou en tout cas des directives au peuple, ou en tout cas à ses dirigeants, ou est-ce que c'est simplement... l'histoire qui est là et on respecte cette histoire, mais est-ce qu'il y a vraiment une influence sur l'évolution du Ghana aujourd'hui?
C'est pas une influence politique, en tout cas il n'a aucun pouvoir décisionnaire.
D'accord.
Mais un pouvoir d'influence qui est très symbolique. Le roi étant basé à Kumasi, mais dans toute cette zone d'influence à Ashanti, on va retrouver des sous-rois, des sous-chefs qui vont répondre aux grandes tendances, aux grandes influences que va pouvoir dicter ce roi. Mais ce qui fait loi, c'est bien ce qui se passe à Accra, dans le D'accord. gouvernement et la présidence.
Et le colonisateur anglais, si je puis m'exprimer ainsi, n'a pas, entre parenthèses, détruit cette famille royale, ne l'a pas remplacée, mais l'a laissé continuer sa mission, en fait.
Oui, alors sous le joug quand même du pouvoir anglais.
D'accord.
Le Ghana a été occupé par différentes nations tout au long de son histoire, à partir du 14e, 15e siècle. On a eu les Suédois, on a eu les Danois,
D'accord.
nous avons eu les Portugais, nous avons eu les Espagnols, il me semble, et puis les Anglais. Et c'est D'accord. vraiment les Anglais qui ont construit le Ghana, et notamment toute la, toute, sur la côte sud, une succession de forts et de châteaux pour sécuriser ce littoral. Et ce sont les Anglais qui ont participé activement dans ce pays au commerce triangulaire en envoyant les esclaves justement vers les États-Unis, enfin les États-Unis actuels.
Donc Clément, si tu devais un peu résumer cette dernière mission, cette dernière mission sur le terrain où tu es arrivé, qu'est-ce que tu ressens de la jeunesse ghanéenne aujourd'hui vis-à-vis de la France? Est-ce qu'il y a des projets pour nous à Lucao, Lucao, c'est à Abidjan, Côte d'Ivoire, excusez-moi, à Lucao, et comment tu vas faire toi-même pour coordonner, organiser tout ça? Quelle va être la suite de ta mission maintenant?
En fait, on y est retourné avec beaucoup de curiosité et les oreilles bien ouvertes. Mmh. On a observé, on a écouté quelles étaient les attentes des étudiants ghanéens en termes de développement de leur propre pays. Parce que c'est bien ça que notre métier prend tout son sens, c'est quand les formations qu'on propose sont en réponse à des problématiques de territoire. Et puis, on a aussi écouté ce que disaient les autorités françaises en termes de priorités de développement. Et ces priorités vont s'orienter vers le développement durable, l'écologie et les biotechnologies.
D'accord.
Voilà. Donc ce sont vraiment trois filières d'études, très scientifiques pour le coup, qui ont la priorité, qui ont la faveur des autorités françaises, qui aujourd'hui font écho dans la société ghanéenne parce que c'est un pays qui est très pollué. La gestion des déchets, c'est même pas un sujet, ça n'existe pas. Les égouts, il n'y en a pas. Donc c'est un pays qui est très sale, qui est très pollué, il y a tout à faire en effet. Mais il y a une prise de conscience quand même. Donc les étudiants sont désireux de s'engager dans ce type de filière. Par chance, nous, à l'Université catholique de l'Ouest, on a ce type de filière sur notre campus Angevin et sur notre campus de Guingamp. Donc c'est une offre de formation qu'on a pu bien mettre en avant. Alors certains pourront y rentrer directement parce qu'ils parlent français, d'autres devront passer par le CIDEF, mais en tout cas on a quelque chose à leur proposer et c'est ça qui est assez satisfaisant. Je pense qu'on n'en fera pas un vivier de recrutement d'étudiants aussi important que dans d'autres pays, notamment francophones, mais on a une carte à jouer. On est la première université française à s'être déplacée depuis le Covid, vraiment dans une dynamique de promotion et d'orientation, donc ça, tout le monde nous en a remercié.
Et tu as rencontré le directeur de Campus France,
oui,
semble-t-il, qui nous a bien accueillis.
Tout à fait, qui lui-même est ghanéen,
d'accord.
Et puis il y a une coordinatrice nationale qui, elle, française, détachée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Tu coordonnes tout ça, si je ne m'abuse, avec ton responsable local, qui lui est du Togo,
oui.
David, qui vient avec toi à chaque mission.
Exactement, on a besoin, et ça, c'est vraiment ce qui nous démarque, différencie des autres établissements, de relais locaux. Ce sont des gens qui nous représentent, qui ont mandat pour parler en notre nom auprès des autorités françaises, des lycées et des étudiants. Parce qu'une fois que notre mission elle est terminée, tu parleras de la tienne tout à l'heure, nous on met le feu pendant une semaine.
C'est ça.
Voilà, on attise les foules d'une certaine manière, on arrive à mobiliser beaucoup de monde, mais il ne faut pas que ça s'essouffle une fois qu'on est rentré. Mmh. Et là, nos relais locaux, qu'on appelle nos représentants officiels, sont là pour assurer justement le suivi, la pérennité de cette action.
Voilà, chers amis, auditrices et auditeurs, vous voyez que c'est très court, quelques minutes pour parler du Ghana, mais si vous avez besoin de d'autres informations, n'hésitez pas à contacter Terre des Hommes et Clément se fera un plaisir de vous répondre. Mais vous voyez un petit peu la grandeur en fait de notre université, c'est qu'aujourd'hui on est capable d'aller dans un petit pays comme celui-ci, qui a priori n'a pas forcément la tendance si naturelle d'aller vers la France que l'aurait le Togo ou la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, et pourtant c'est possible. Et Lucao et la ville d'Angers offrent des choses intéressantes, tellement intéressantes que Clément arrive à attirer des Ghanéens maintenant, et il va bientôt y avoir les premiers étudiants, je crois qu'ils vont arriver, hein. Tu es en train de les recruter en fait.
C'est ça, on est en plein dedans là.
Voilà, et donc c'est tout à fait extraordinaire et enthousiasmant pour notre équipe de voir que finalement, cette offre est universelle et plaît à beaucoup de gens. Et donc, nous allons faire une petite pause musicale et je vais passer le micro dans l'autre sens à Clément qui va, à son tour, me poser des questions sur ma dernière mission. À tout de suite. We'll be right back.
beautiful seasons. People get feeling the culture go make you vibe. The people for Rise of Africa, show your
des hommes.
Eh bien Jean, c'est à toi, à ton tour, de répondre à toutes mes questions, parce qu'on est très curieux au recrutement international, et tu reviens, toi, tout fraîchement, d'une mission, alors non pas en Afrique de l'Ouest, t'es parti un peu plus dans le centre de l'Afrique, dans les deux Congos, la République du Congo et la République démocratique du Congo. Tu as été, je crois, dans les capitales, les deux capitales les plus proches au monde. Alors c'est, dis-nous où tu es parti.
C'est exact. Donc je suis arrivé d'abord à Brazzaville, donc la capitale du Congo-Brazzaville, un tout petit pays de quelques millions d'habitants, où je vais tous les ans maintenant. Il y a une très très belle équipe là-bas qui travaille. Et puis effectivement, à Brazzaville, lorsque vous êtes par exemple au bord du fleuve, le fleuve Congo, eh bien vous voyez l'autre côté, une des plus grandes capitales d'Afrique de l'Ouest, Kinshasa. La République démocratique du Congo, qui lui est un pays complètement colossal, qui part complètement à l'est au lac Kivu, frontière du Rwanda, et qui a un tout petit passage qui le mène jusqu'à la mer. Le fleuve est très capricieux, pas du tout navigable jusqu'à la mer, et d'ailleurs il faut le traverser, et je peux te dire que c'est très très folklorique de traverser ce fleuve pour aller de l'autre côté.
D'accord, bah tu nous en diras plus. La mission que tu as réalisée, donc dans deux pays, dans deux villes différentes, c'était quoi l'objectif que tu t'étais fixé?
Alors, donc première mission, Brazzaville, nous arrivons là pour 4 jours, et notamment nous avions organisé 2 jours de séminaire, et ça c'était assez original. Toi-même, tu en as fait un au mois de juin 2020 à Abidjan. Nous avons réuni une dizaine de nos représentants officiels de toute l'Afrique de l'Ouest, à partir normalement de Dakar jusqu'au Gabon. Ils étaient tous là, sont tous venus, presque, hein, par quelques-uns, et nous avons pendant 2 jours travaillé à d'abord s'écouter, échanger nos nouvelles. Ben, qu'est-ce que vous devenez les gars? Comment ça se passe chez vous dans vos pays? Qu'est-ce qui se passe politiquement, socialement? Comment vont les jeunes? Quelles sont leurs aspirations? Qu'est-ce que l'UCO peut faire pour les aider? Quelle formation est-ce qu'il faudrait monter chez vous pour qui correspondent aux besoins locaux? Parce qu'il ne s'agit pas de vendre, excusez-moi le terme, des masters ou des licences à des étudiants dont ils auraient que faire une fois revenus au pays. Hein. Il faut vraiment faire des programmes qui, lorsqu'ils rentrent chez eux, soient utiles au développement de leur pays. Et pendant 2 jours, dans un hôtel, nous avions loué une salle, on a discuté, échangé, projeté des PowerPoint. Tout le monde parlait les langues locales, c'était génial. Alors tout le monde parle français, mais ils s'échangeaient entre eux. Certains ne se connaissaient pas, ne s'étaient jamais vus à part sur le groupe WhatsApp. C'était extraordinaire. Franchement, j'ai vécu une expérience que j'oublierai pas. Alors, j'avais déjà un peu l'habitude de ça, mais là, je vous mets le contexte. Autour de cette table, nous étions une quinzaine de personnes. Il y avait des Burkinabés, des Maliens, des Ivoiriens, des Sénégalais, des gens du Togo, il y avait des gens du Kinshasa, des gens de Brazzaville, du Rwanda, on a fait venir Anatole du Rwanda de Kigali. C'était absolument génial. Il y avait, en termes de religion, c'est important la religion en Afrique, parce que tout le monde est religieux plus ou moins en fait. Nous avions des musulmans, des chrétiens catholiques, des chrétiens protestants, des animistes. Nous avions des gens qui parlaient des langues très différentes et tout le monde s'est écouté, a échangé avec un objectif commun, servir la jeunesse de leur pays pour les aider à se former et à être capable ensuite de prendre en main la direction, le développement de leur pays avec un passage à l'UQO. Et ça, c'est vraiment... Moi, j'étais au milieu et à un moment donné, il y en a un qui m'a dit « Non, Jean, mais t'es le seul blanc au milieu de nous tous. » D'ailleurs, je m'en rendais même plus compte parce que c'est des frères, quoi. C'est ma famille professionnelle. Et blanc, noir, on ne savait plus trop, en fait. Et j'ai vécu un moment, j'ai envie de dire, d'humanité extraordinaire. Extraordinaire.
Super. Une grande émulation alors avec tous nos partenaires africains, ou en tout cas une grande majorité d'entre eux. Mais est-ce que tu peux nous dire, finalement, quel est le rôle qu'on leur a confié et en quoi ils sont utiles pour nous aussi, recrutement international, dans notre développement au service de l'étudiant africain?
Bah, c'est tout à fait essentiel en fait, parce que toi et moi, tu le sais, on part en mission 10 jours, on arrive dans un hôtel, on prend une bagnole, on va rencontrer des écoles, des lycées, des universités, les autorités françaises et parfois locales. Mais à la fin, d'ailleurs cette fois-ci, j'ai dîné avec, par exemple, le directeur général de la police de Brazzaville, qui a d'ailleurs son fils ici à l'UQO, le colonel Olinguet. J'ai dîné avec une sénatrice, voilà, à Abidjan, et récemment j'ai dîné avec un député, donc voilà. Mais en fait, une fois qu'on part, on part. Et so what, qu'est-ce qui va se passer après? Eux, nos représentants officiels, ils ont tous, soit ils habitent sur place, soit ils ont des équipes locales. Et donc, c'est eux qui rencontrent les parents, qui rencontrent les étudiants, qui organisent des mini-salons pour répondre aux questions, qui vont sur les forums, qui font des tournées des lycées. Par exemple, Kadi, notre représentante de Côte d'Ivoire qui était là, elle vient de faire une tournée de Côte d'Ivoire de 64 lycées. Pour parler de l'UQO et des différentes offres que nous avons. Et c'était absolument extraordinaire parce qu'elle rencontre tout le monde en fait, elle est devenue incontournable. Notre mission et ma mission pendant ces deux jours de séminaire, c'était de coordonner, d'animer, de donner une impulsion. Mais en fait, c'est eux qui font le travail, vraiment c'est eux qui font le travail. Et ils commencent vraiment à être reconnus, ils ont une vraie... Alors il y a une éthique et une charte, hein. Il faut qu'ils soient honnêtes, il n'y ait pas de trafic, qu'ils aient bien une société déclarée dans leur pays, qu'ils payent leurs taxes et leurs impôts. Enfin, tout est absolument clean et on parle aussi d'argent bien sûr, hein. Il s'agit d'être tout à fait transparent. Mais ils ont un rôle essentiel parce qu'ils font le lien, en fait, entre l'UQO d'Angers et ses campus et les familles sur le terrain. Et ça, c'est exceptionnel. On a très peu d'universités en France qui ont monté une telle équipe. Et quand j'étais là, au milieu d'eux, avec ces deux, ils sont une quinzaine en Afrique, il y en avait une dizaine qui étaient là, il en manquait quatre, je crois. Ils étaient 11. Franchement, j'étais très touché. Je me suis dit, mais c'est génial ce qu'on vit, quoi. Tous ces Africains qui sont là, aussi bien garçons et filles d'ailleurs, qui ont tous leur histoire, leur expérience. Certains en sont binationaux, ils ont aussi le passeport français, certains. Et on parle tous de la même chose. On veut développer le pays, mais on le fait par la porte d'entrée, c'est l'université, c'est la formation des intelligences, hein, et le fait d'offrir des métiers à ces jeunes. Et franchement, je me dis, mais on vit un truc extraordinaire, exceptionnel.
Donc là, ce que tu es en train de nous dire finalement, c'est que ce séminaire que tu as organisé, animé, et le rôle que l'on a confié à nos représentants officiels, eh bien, ils incarnent deux des valeurs cardinales de notre université, qui est le dialogue et la proximité.
Absolument, c'est tout à fait ça. Et je dirais, ça transcende nos cultures, ça transcende nos approches éthiques et morales de la vie, et même de nos religions. Il y en a un qui m'a dit à un moment donné, je pense à Abdoulaye, voilà, qui est notre représentant au Mali, d'origine musulmane, il me dit, tu te rends compte, Jean, on discute, on s'engueule même pas. On s'écoute, alors que dans la vraie vie, c'est très compliqué. Et là, certains sont... Par exemple, Anatole a parlé très longuement de ce qui s'est passé, très très longuement, avec beaucoup d'émotion, de ce qui s'est passé au Rwanda. La famille de sa femme a entièrement été massacrée. Et il nous a expliqué pourquoi la notion de Tutsi, de Hutu, n'existe pas. En fait, c'est une notion artificielle qui a été inventée par toute l'histoire du Rwanda. Il nous a expliqué pourquoi il fallait travailler une autre vision de l'homme et de la femme et de l'humanité. Et ça touchait tout le monde écoutait. Et derrière, il déclinait comment il allait traduire ça en action de recrutement des étudiants pour qu'ils s'inscrivent dans une dynamique plutôt humaniste et universelle que focusser sur le nom d'une ethnie qui aurait ses particularités, diraient certains colons ou certains colonisateurs ou même... population locale. Donc, il y a un vrai travail qui se fait, qui dépasse le simple recrutement international d'étudiants étrangers. Donc, c'était deux jours très intenses. Et puis, nous sommes allés au beach. le fameux beach, c'est-à-dire la traversée pour aller de l'autre côté.
Alors pourquoi avoir quitté Brazzaville pour te rendre à Kinshasa? Au fond, pourquoi avoir choisi ces deux pays-là en particulier pour ce séminaire?
Eh bien parce que les Congolais de Congo-Brazza et les Congolais du Kinshasa, République démocratique du Congo, sont frères, parlent la même langue, en tout cas pratiquement la même langue, il y en a plusieurs bien sûr. La plupart sont mariés entre eux, sont cousins, cousines, et au fond, c'est pratiquement un même peuple. Et puis en plus, en traversant en 10 minutes de bateau le fleuve Congo, enfin le bateau, on traverse, on met le jet de sauvetage, on espère qu'on va arriver, eh bien on arrive dans une des plus grandes capitales d'Afrique. Hein. Imaginez Kinshasa, c'est plusieurs millions d'habitants. Et Kinshasa, à lui seul, la ville de Kinshasa, qui est la capitale de la RDC, est plus grande en nombre d'habitants que tout le Congo-Brazzaville à côté. Donc, pour te donner un petit peu l'étendue de la ville.
Ça donne un peu la mesure, oui.
C'est absolument énorme. Et là, on a fait une mission de 4 jours où on a rencontré Campus France, les autorités consulaires, on a rencontré plein de gens, on a rencontré des étudiants, on a fait un mini-salon au Palais des Congrès au ministère des Affaires étrangères. On a pu parler à la radio, on a été interviewé sur des radios locales et sur des télévisions locales. Et on a vu plein de jeunes qui ont plein de projets. Et c'est tout à fait intéressant de les rencontrer chez eux. Alors, une bonne partie de l'équipe du séminaire nous a rejoints. Donc ça, c'était génial. Ils ont donc traversé avec nous le beach. Ils appellent ça le beach là-bas. Et ils nous ont suivis dans toutes les étapes. Certains sont montés sur le podium, se sont présentés. Moi, je viens du Bénin. Moi, je viens de Côte d'Ivoire. Et les jeunes se disaient, mais en fait, la problématique d'un jeune de Kinshasa, aujourd'hui, c'est la même qu'un jeune d'Abidjan, de Lomé, d'Accra ou de Ouagadougou. C'est la même, en fait, avec des particularités ethniques, culturelles, j'ai envie de dire sociales, un petit peu différentes. Mais au fond, quand on écoute tous ces jeunes, qu'est-ce qu'on ressent? Ils veulent vivre heureux, ils veulent servir leur pays, ils veulent faire des familles, ils veulent faire des études. Et ils ont envie de comprendre le monde, dans ce monde qui bouge. Voilà, bientôt 1 milliard de plus d'habitants en Afrique. Voilà, une mobilité internationale qui va doubler. Ils veulent comprendre comment travaillent les Européens, les Américains, pour une fois, fort de cet enrichissement culturel, revenir au pays et être citoyen du monde. C'est ça qui dominait dans ces deux missions, parce que c'était une double mission en fait. C'était être citizen of the world, pas seulement congolais ou burkinabé ou ivoirien, mais nous sommes des citoyens du monde et notre rôle, notre mission à nous les jeunes, alors moi je ne parle pas pour moi, c'est eux qui le disent, hein, c'est de construire cette société de citoyens du monde qui veut s'enrichir mutuellement. Et ça me touche vraiment beaucoup.
Bah oui, je comprends. Puis avec, entouré comme ça d'autant de collaborateurs, de frères finalement, au service d'une même cause qui est l'orientation des jeunes au service de leur projet professionnel, lui-même au service du développement du pays, Ça a beaucoup de sens finalement. Et qu'est-ce qu'expriment les étudiants congolais de Brazzaville et ou de Kinshasa, si la réponse est la même? Qu'est-ce qui les pousse à venir étudier en France ou à minima en Europe? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher?
C'est toujours la même chose. Ils comprennent que, ils le disent eux-mêmes, ils disent avec nos smartphones, on peut envoyer un WhatsApp ou un message dans le monde entier en 5 minutes. On peut écrire un texto au Japon, en Chine, à Pékin, aux États-Unis, au Canada, et on croit qu'on a le monde au bout des doigts. Mais la réalité, ils le disent, la réalité, c'est qu'on ne connaît pas le monde. On ne connaît pas le monde, même si on est capable d'envoyer des messages au monde entier. Et tous comprennent que pour comprendre le monde, il faut aller à la rencontre de l'autre. Il y a un proverbe américain que j'aime bien et qu'on a beaucoup débattu dessus d'ailleurs. On l'a mis même comme slogan à discuter pendant ce séminaire. C'est « The world is a book. Only those who did not travel only read the first page. » Donc le monde est un livre. Seulement ceux qui n'ont pas voyagé n'ont lu que la première page. Le monde est un livre, ceux qui n'ont jamais voyagé n'ont lu que la première page. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on veut comprendre les autres cultures, si on veut comprendre les autres, il faut sortir de chez soi, il faut couper avec sa famille, avec sa culture, non pas parce qu'elle n'est pas bonne, mais parce que chez les autres c'est différent, et aller s'enrichir de cette autre façon de voir l'humanité pour plus fort voir le monde différemment. Et puis bien entendu, je suis très réaliste, hein, faire du business avec les Américains et les Européens, avec les Australiens, les Canadiens, et que la France a tout intérêt à le faire, parce que si la France n'accueille pas ces jeunes, ils iront ailleurs, hein. Ils iront au Canada, aux États-Unis, en Russie, aux Émirats Arabes Unis, et que la France perdra des relations et des contacts et des partenaires. Donc pour la France, accueillir ces jeunes, les former pour qu'ils repartent ensuite travailler dans leur pays, c'est absolument essentiel en termes de géopolitique. Et ils l'ont bien compris, les jeunes. Et c'est pourquoi il frappe à la porte de la France pour faire leurs études. Et nous avons mis, grâce à Campus France et à nos universités respectives, des dispositifs pour les accueillir.
Très bien. Et on peut au moins se satisfaire, peut-être à la différence du Ghana, qui est une zone qu'on est en train de prospecter, de développer. On accueille déjà depuis certaines années un bon nombre de candidats et d'étudiants qui s'inscrivent à l'UCO qui viennent de ces deux pays-là. Est-ce que tu peux nous donner un peu une idée chiffrée ?
Oui, tout à fait. Entre Brazzaville et Kinshasa aujourd'hui, on a quasiment doublé depuis deux ans. On a une petite trentaine d'étudiants de Brazzaville chaque année qui viennent à l'UCO et à peu près la même chose qui viennent de Kinshasa. Je dirais entre 50 et 60 de ces deux pays. Ça monte, ça double pratiquement cette année. Et on a pratiquement doublé les candidatures aussi, une bonne centaine par pays maintenant. Donc on commence à être bien implanté, bien reconnu, considéré comme une université fiable et un dispositif sécure, comme ils disent. Donc voilà, c'est bien parti, notre partenariat se développe. Et vive l'UCO, vive le Congo-Brazza et Kinshasa, et continuons de travailler ensemble pour être citizen of the world.
Ok. Alors, parce que toi, t'es un grand voyageur, on sait que t'es passionné, et ça se sent même. Les auditrices, les auditeurs, vous pouvez pas voir Jean quand il parle. Mais il est en train de gesticuler sur sa chaise quand il est en train de témoigner de ses expériences. Est-ce qu'il y a une mission, là, prochainement, qui va se profiler ?
Tout à fait. Dans trois semaines, le 26 mars prochain, j'ai le plaisir de repartir en Côte d'Ivoire, cher à mon cœur, comme tu le sais, puisque j'y étais coopérant juste marié avec mon épouse, et je repars avec une partie de l'équipe rectorale. D'ailleurs, nous partons vers l'UCAO à Abidjan pour nos partenariats et nos actions ensemble. Et nous allons même monter jusqu'à Boaké pour rencontrer des gens là-bas. Donc voilà, prochaine mission, la Côte d'Ivoire, et je suis très impatient d'y être.
Eh bien, dans ce cas-là, on te redonnera le micro pour un petit rapport de mission, nous dire ce que tu as fait, ce que tu as redécouvert en Côte d'Ivoire.
Tout à fait, je te remercie Clément, et j'ai vraiment envie de dire en dernier message, on a déjà passé l'heure, Étienne va nous pardonner, dans ce monde un peu fou, vraiment, dans ce monde un peu fou, on voit ce qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine, mais on va en parler tout à l'heure, qu'est-ce que ça fait du bien l'Afrique ? Qu'est-ce qui nous font du bien nos frères africains ? Ils sont cool, ils sont détendus, alors il y a plein de problématiques énormes à résoudre chez eux, je suis tout à fait conscient, j'y vais tous les mois, toute l'année, je commence à connaître l'Afrique, mais... Moi, ils me font un bien fou. Ils me font un bien fou, et ça fait du bien de rencontrer des gens qui sont dans leur tête, j'ai envie de dire, joyeux, enthousiastes. Ils n'ont pas envie de massacrer le voisin d'à côté. En tout cas, même s'il y a plein de guerres en Afrique, je le sais, mais au fond, la jeunesse africaine me fait un bien fou, et j'ai envie de faire paraître, en tout cas de faire comprendre à travers ce micro et tous ceux qui nous écoutent, mais accueillons-nous les uns les autres et construisons le monde ensemble.
Ça fait du bien d'entendre ce type de propos. Donc, je te remercie de cette interview croisée. Je pense qu'on a pu partager notre expérience personnelle et professionnelle dans trois pays qu'on a pu découvrir ou redécouvrir ces dernières semaines. L'aventure continue. On repart bientôt sur le terrain. Tu l'as dit toi-même, Côte d'Ivoire. Moi, je repars au Togo, au Bénin dans deux semaines. Tout ça pour préparer la rentrée de septembre 2022. Donc, on aura encore plein de choses à vous raconter au micro de Radio Campus et de Terre des Hommes. Et donc, on vous dit à très bientôt.
Salut, ciao.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.